Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h10 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 30 minutes la Libre Antenne. Nous sommes vendredi. Vous pourrez évidemment commenter l'actualité de votre choix parmi les sujets qui suscitent le plus de réactions au standard et sur nos réseaux sociaux. Il y a évidemment l'élection présidentielle de dimanche en Guinée. Vous êtes également toujours aussi nombreux à nous appeler de Côte d'Ivoire pour nous interpeller sur la présidentielle du 31 octobre et commenter l'appel au boycott actif du processus électoral lancé hier par les opposants Henri Colombédier et Pascal Affine-Guessant, des réactions sur la situation sécuritaire au Mali. On a reçu, tiens, un témoignage sur les violences policières au Nigeria, importante mobilisation de la jeunesse sur place pour réclamer une réforme de la police. Autre témoignage, là aussi intéressant, j'espère qu'on aura le temps de rappeler cet auditeur, sur la reprise des cours en République démocratique du Congo après 6 mois d'interruption pour cause de Covid-19. Voilà, un aperçu de la Libre Antenne, vous nous appelez, vous êtes les bienvenus, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Et on va commencer justement avec une question sur ce scrutin présidentiel de dimanche en Guinée. Mamadou Aliou, bonjour.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Bienvenue sur notre antenne, on vous écoute.
L'Union Européenne ne va pas envoyer d'observateurs pour les élections du dimanche en Guinée. Alors Monsieur Gomez, j'ai deux questions à vous poser.
Oui.
Et la première, j'aimerais savoir qu'est-ce qui motive cette décision de l'Union européenne. Et la seconde question, comment va se dérouler le processus d'observation de la CEDEAO concrètement?
Alors, pour vous répondre, nous avons contacté l'un des correspondants de RFI à Conakry. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour Mamadou Aliou.
Il n'y aura donc pas d'observateurs européens pour superviser l'élection de dimanche?
Non, effectivement, premier élément de réponse sur le pourquoi. Je viens d'avoir une source qui m'indique que l'Union européenne n'a pas été invitée à observer le processus. Mais pour remettre les choses en perspective, il faut savoir que l'Union européenne a tenu dès le début du processus une position très ferme sur le sujet. Alors elle a observé par le passé notamment les législatives de 2013, la présidentielle de 2015, les communales de 2018. Et à chaque fois, des rapports ont été produits, mais leurs recommandations n'ont été pas totalement appliquées. Donc on se demande un peu à Bruxelles si ça sert vraiment à quelque chose. Ensuite, lors du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, l'UE a mis en cause la crédibilité du processus, notamment en raison du fichier électoral. L'OIF, qui avait accompagné la CENI, avait choisi de se retirer du processus et aucune des grandes institutions internationales n'avait envoyé d'observateurs pour ces élections.
Alors effectivement, c'est un bon rappel. Depuis, il faut quand même préciser qu'une mission de la CEDEAO s'est rendue à Conakry pour se pencher sur la question très délicate du fichier électoral. Fichier qu'elle juge désormais mais suffisamment crédible pour aller à l'élection de dimanche. L'organisation sous-régionale va donc déployer ses observateurs sur le terrain. Concrètement, que sait-on de cette mission, nous demandait Mamadou Aliou.
Alors, je viens d'avoir quelques informations là-dessus. Ils sont 16 observateurs à long terme et 120 observateurs à court terme. Leur déploiement pour ces derniers commence à partir d'aujourd'hui. Il y a une salle de situation qui est installée à l'hôtel Kaloum. C'est juste à côté de la présidence, en plein centre-ville de Conakry. Le chef de mission de ces observateurs, c'est l'ancien premier ministre du Cap-Vert, José María Neves, qui est arrivé hier soir dans la capitale guinéenne.
Malgré tout, Carole Valade, il reste encore des doutes sur le processus.
Oui, rappelons-le, si la CEDEAO a validé le fichier électoral, comme vous l'avez rappelé, nous avons toujours pas reçu de copie de son rapport d'évaluation, malgré nos demandes répétées. Et comme c'est la seule institution internationale à s'être prononcée sur la question, certains observateurs se posent aujourd'hui des questions sur la fiabilité de leurs conclusions. Alors bien sûr, l'opposition s'en est saisie, elle dénonce également des manquements dans le processus. Le fichier devrait être, par exemple, accessible à tous et les copies des procès-verbaux disponibles pour chaque candidat dans tous les bureaux de vote. La porte reste donc ouverte à la contestation, ce qui laisse présager des lendemains compliqués après le vote de dimanche.
Et on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Ils sont nombreux, les auditeurs, à nous appeler de Conakry. Mamadou Aliou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, Rouen, merci beaucoup et merci pour le travail.
Merci à vous de vos encouragements. Et bah, puisqu'on se remercie, on remercie évidemment notre correspondant Carole Valade qu'on retrouvera tout au long de la journée et tout au long du week-end, notamment de la journée de dimanche, journée électorale en Guinée. D'autres questions à la rédaction? Bonjour Bruce.
Bonjour, monsieur Wang.
Vous êtes à Brazzaville, au Congo.
Si.
C'est bien
au
ça.
Au Congo Brazzaville.
Vous avez des questions sur les combats dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan?
Oui.
On vous écoute.
Ok. Ma première question, c'est comment expliquer que le cessez-le-feu, entré en vigueur samedi, n'a duré que quelques heures?
Ah, bonne question. Anissa El-Jabri est à mes côtés. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, vous rentrez justement du Haut-Karabakh, cette enclave séparatiste située en Azerbaïdjan, peuplée très majoritairement d'Arméniens. Il a fallu des heures et des heures de négociations à Moscou pour aboutir donc à cet accord de cesser le feu. Finalement, la trêve n'aura duré que quelques minutes.
Et oui, alors ça c'est déjà, on le voit, vous décrivez ces négociations qui sont très très longues, et puis on le voit aussi quand on est sur place, quand on voit ce qui est négocié, parce que c'était en réalité un cessez-le-feu à minima. Il s'agissait essentiellement d'échanger des prisonniers de guerre, les corps des personnes tuées, et moi quand j'étais sur place, déjà à l'époque, les gens me disaient ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a même pas pu s'échanger nos morts, ça n'arrive jamais. Donc déjà on était sur quelque chose qui était finalement avec une ambition très minimale.
Donc c'était un cessez-le-feu purement humanitaire, pour dire les choses.
Voilà, cessez-le-feu purement humanitaire, et puis même pas nécessairement avec les conditions pour qu'ils tiennent. Hein, quand on regardait le texte, on voyait très bien qu'il n'y avait même pas de précision sur la manière dont le cessez-le-feu pouvait être mis en place sur la ligne de front. Et puis l'autre élément, vous le disiez, Moscou, des longues négociations qui sont faites par les ministères des Affaires étrangères. En général, un cessez-le-feu, on le sait, ça tient mieux quand c'est négocié par les militaires. Et puis autour de la table, de surcroît, il n'y avait pas de représentants des autorités du Haut-Karabakh. Après, il y a quand même un cadre général qu'il faut bien avoir en tête sur ce conflit, c'est que la communauté internationale, elle ne pèse pas assez. Alors, il y a une instance qui est censée être régulatrice, en tout cas qui est chargée officiellement de trouver une solution à ce conflit, ça s'appelle le groupe de Minsk. C'est 11 pays. Et dedans, eh bien, il y a la France et la Turquie. Alors, on le sait bien, ça fait déjà des mois que le torchon brûle entre Paris et Ankara. Hein, je vous rappelle, Syrie, Libye, Méditerranée orientale, réfugiés. Et maintenant, il faut ajouter ce conflit. Parce que, oui, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan, turcophone, le revendique. Vous vous souvenez de cette déclaration d'Emmanuel Macron jugeant que Bakou et Ankara avaient franchi une ligne rouge. C'était au sujet de la présence de mercenaires syriens dans le conflit.
Des mercenaires syriens envoyés par la Turquie aux côtés des forces azerbaïdjanaises.
Voilà, ça fait c'est à ce moment qu'on s'est posé la question de l'internationalisation du conflit, au minimum de sa régionalisation. Donc quand on voit que même au sein des instances dites régulatrices, les choses ne fonctionnent pas très bien, une mise en cause directe entre deux pays au sein du groupe de Minsk, il faut quand même l'avoir en tête, c'est une première. On rajoute, pas de position ferme de Moscou, en tout cas on se pose la question sur sa stratégie, les États-Unis absents de la région, bon, et ben voilà, à la fin, ça donne quelque chose qui a du mal à tenir, c'est assez évident.
Et les combats continuent encore à l'heure actuelle. Vous avez une autre question, Bruce?
Oui. Déjà, moi, je voudrais savoir quelles sont les conditions posées par les deux camps pour mettre fin au combat.
Alors, Anissa El-Jabri, les deux camps ont évidemment des revendications et ce sont les mêmes depuis le début des années 90.
Oui, depuis en fait que le Haut-Karabakh a fait sécession de l'Azerbaïdjan. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette fameuse expression de conflit gelé, parce que ça fait 30 ans que chacun a ses revendications. Alors, le Haut-Karabakh, je vous rappelle, c'est une république qui n'est reconnue par personne, même pas par l'Arménie. Ça n'empêche pas que les diplomates tournent en rond, parce que pour chacune des deux parties, en fait, c'est une question d'identité autant que de territoire. C'est presque même parfois pour certains une question existentielle. Donc pour Bakou, c'est clair, cette région montagneuse, elle lui appartenait avant que le Haut-Karabakh fasse sécession. Et Bakou rappelle qu'il y a en droit international ce principe, le respect de l'intégrité territoriale. Alors les Arméniens, eux, ils s'appuient sur un autre principe du droit international, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 150 000 habitants dans cette enclave montagneuse, très majoritairement, essentiellement arménienne. Ça veut dire que c'est très compliqué à réguler. Je vous donne juste un petit exemple qui est un symbole pour tout le monde, cette fameuse ville de Chouchi, qui est à 8 km de la capitale de Stepanakert. Elle est très chère au cœur des Arméniens et des Azerbaïdjanais. Il y a cette cathédrale qui a été bombardée, qui a été prise, puis reprise pendant d'autres combats. Il y a également des mosquées. Ça dit bien quelque chose de l'imbrication de ces patrimoines et de ces questions identitaires et religieuses.
Donc très difficile finalement de trouver un compromis, d'autant que on en parlait tout à l'heure, il y a aussi les Russes, il y a aussi les Turcs.
Voilà,
ça s'internationalise.
Oui, et puis il y a toujours, on dit deux parties prenantes, mais en réalité, le Caucase, et donc singulièrement ces zones et ces deux pays-là, pour Moscou, c'est son arrière-cour, c'est son jardin, c'est sa zone naturelle d'influence. Sauf que de l'autre côté, eh bien, on a une Turquie qui cherche, elle aussi, à y gagner de l'influence. Donc, il y a déjà cette première chose. Il y a aussi le fait que toute cette région, il y a un enjeu énorme en termes d'énergie vers l'Europe, via l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. Et puis, si on reste juste sur la régionalisation, le Caucase, on le sait, c'est pas une région qui est particulièrement stable. Et ça peut avoir un effet déstabilisateur sur la Géorgie, sur un acteur aussi majeur de la région, sur l'Iran. Mmh. Et donc, tout le monde, quand on pense Téhéran, Moscou, Ankara, ça fait déjà beaucoup de monde.
Oui.
Voilà, surveillez ce qui s'y passe.
Bruce, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui. Merci beaucoup, monsieur
Wan. Merci au décryptage d'Anis El Jabri. Bonne journée à tous les deux. À bientôt, Anis El Jabri. Merci beaucoup. 10h21 à Paris, 33 9 693 693 70. On va parler d'un sujet bien plus léger, mais ô combien important au Sénégal. On va parler du plat national sénégalais. Bonjour à Alassane. Bonjour Alassane.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes à Dakar, Alassane.
Non, je suis à Orcadéré, comme je l'avais précisé.
Ah, effectivement, moi j'avais Dakar, oui, j'ai deux informations sous les yeux, Dakar d'un côté et Orcadéré d'un autre, c'est là où vous êtes. Merci infiniment, c'est près de la frontière avec la Mauritanie. Quelles sont vos questions, Alassane ?
Bon, en fait, Juan, début septembre, le dossier complet du Sénégal pour l'inscription du Tchébouyen, riz au poisson en Wolof, dans les patrimoines culturels et immatériels de l'UNESCO a été déposé. Alors, quel est l'intérêt pour le Sénégal de faire inscrire le Tchébouyen dans le patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO ?
Le Tchébouyen sera-t-il bientôt reconnu par l'UNESCO ? Sébastien Gédor, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Alassane, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service culture de RFI.
Culture et cuisine aujourd'hui.
Et cuisine, oui, effectivement, vous avez mis votre beau tablier blanc. Expliquez-nous pourquoi le Sénégal veut inscrire son plat traditionnel, son plat national au patrimoine de l'UNESCO.
On est vraiment là dans la reconnaissance d'une spécificité culturelle. Je pense pas que des centaines de touristes supplémentaires vont se ruer au Sénégal uniquement parce que le Tchébouyen, même si c'est délicieux, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pas du tout comme quand vous classez un site au patrimoine de l'humanité, que ce soit un site naturel, un paysage ou un monument. Ça, il y en a déjà 7 au Sénégal qui sont classés. On va pas tous les citer, mais les Sénégalais les connaissent en général. C'est l'île de Gorée, c'est le centre de la ville de Saint-Louis, le quartier de l'île. Il y a aussi le parc des oiseaux du Djouj. Là, c'est aussi près de Saint-Louis, le parc naturel du Niokolokoba, où il y a des animaux dans le sud-est. Donc tout ça, c'est le patrimoine matériel de l'UNESCO, et on peut penser, ça figure sur toutes les brochures touristiques, que ça attire beaucoup de touristes.
Mais parle de patrimoine immatériel.
Là, on parle de patrimoine immatériel, donc c'est tout à fait autre chose. L'aspect touristique, c'est vraiment marginal. On est vraiment dans la reconnaissance d'une tradition qui appartient à une population, mais c'est aussi comme dans le patrimoine matériel, finalement. Le but, c'est la protection de cette tradition, et là, on voit que ça a une importance, parce que le Ghana et le Nigeria ont aussi dit qu'ils allaient déposer également une demande auprès de l'UNESCO pour la reconnaissance du patrimoine immatériel du Jollof Rice, c'est le riz au poisson. Version anglophone, on peut dire, version Ghana-Nigeria. Donc ce que cherche à faire, en quelque sorte, le Sénégal, c'est à faire reconnaître une sorte d'antériorité de cette tradition par rapport à celle du Jollof Rice. Bon, alors on va pas aller jusqu'à dire que c'est une protection juridique, parce que ça serait quand même très très difficile à démontrer, même si c'est classé au patrimoine immatériel, mais quand même, ce serait une reconnaissance, on va dire, on est dans l'ordre du symbole.
Alassane, une autre question, il me semble.
Oui, exactement. Cette demande a-t-elle une chance d'aboutir ?
Alors, Sébastien Gédor, chances.
Je suis peut-être venu avec mon tablier, mais pas avec ma boule de cristal. Néanmoins, si on regarde, il y a des critères à respecter pour le patrimoine immatériel, pour être reconnu. Le pays doit démontrer que ce patrimoine est traditionnel, contemporain, vivant, représentatif, inclusif. Bon, tout le monde est d'accord pour dire au Sénégal que le Tchébouyen, c'est une tradition bien ancrée. Mmh. Elle est vivante, elle est contemporaine. C'est pas une recette qu'on a oubliée. Il y a des centaines de tonnes de riz au poisson qu'on mange tous les jours. La représentativité, c'est évident quand on pense Tchébouyen. Boudienne, on pense Sénégal. D'ailleurs, oui. Qu'on soit dans le pays ou qu'on soit dans la diaspora. Et inclusif aussi, bon là, c'est un critère aussi qui devrait coller parce que ça transcende les classes sociales. Tout le monde a l'image de ces petits restaurants dans les rues où on
et
peut manger du tiboutien.
Intergénérationnel.
Intergénérationnel.
On est jeune, on est âgé, tout le monde mange.
Ça devrait marcher.
Effectivement. La réponse de l'UNESCO est prévue, est attendue pour quand?
Il n'y a pas de délai. Ah. L'UNESCO peut se prononcer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. L'examen des dossiers prend du temps.
Faudra être patient. Alassane.
Oui, Rouen.
Qui prépare le tiboudienne à la maison?
Ben, sont les mères, les tantes, voilà.
Voilà, donc.
Les sœurs aussi.
Vos sœurs également. Et vous l'aimez pimenté ou pas trop pimenté?
Ouais, un peu pimenté, oui.
Un peu pimenté, évidemment. Sébastien Gédor, à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci infiniment d'être venu répondre à Alassane, qui nous appelait donc du nord du Sénégal. On va parler football pour terminer cette première partie et on va parler de ce sujet très, très, très commenté en Italie. Bonjour, Boubacar.
Bonjour, monsieur Gomez, et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci de nous appeler de l'Abbé, en Guinée.
Ok.
On vous écoute.
Monsieur Gomez, la Ligue italienne a sanctionné Naples pour ne pas s'être rendu à Turin le 4 octobre à raison de la contamination au Covid de plusieurs joueurs.
Oui.
Le match a été perdu sur tapis vert et le Napoli a écopé d'un point de pénalité. Mes questions sont les suivantes. Comment la Ligue italienne justifie-t-elle cette décision alors que l'équipe de Naples avait été empêchée de prendre l'avion par les autorités locales?
Et moi-même, je me suis posé la question, hein, Boubacar, pour tout vous dire. Frédéric Suto du service des sports nous rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan, bonjour
la
Boubacar.
La sanction était très attendue, la sanction est tombée mercredi soir. Et je le disais, depuis, ce verdict est très très commenté, puisqu'au final et au total, Naples perd 4 points après son forfait face à la Juve. On rappelle les faits peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode?
Oui, alors ce match au sommet du Calcio, troisième journée, Juventus-Naples, il était prévu pour le 4 octobre. Mais tout a commencé une semaine auparavant. Le Napoli recevait le Genoa, victoire 6-0 pour le Napoli. Mais le lendemain, on apprenait que 14 joueurs du Genoa avait contracté le coronavirus. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Naples? On s'est dit, oulala, oulala, on a joué contre eux hier, on va tester tous les joueurs. Et durant la semaine, dans les jours qui ont précédé le déplacement à Turin pour affronter la Juventus, eh bien, deux joueurs du Napoli se sont retrouvés testés positifs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à la veille du match. Les joueurs, le staff sont en partance pour Turin, mais l'autorité locale de santé de Naples,
sanitaire, oui.
L'autorité sanitaire a interdit au club de partir pour Turin avec le risque, eh bien, de créer un foyer de contamination à Turin en arrivant.
Donc l'équipe de Naples ne peut pas prendre l'avion.
Elle ne prend pas l'avion, elle ne part pas à Turin, mais du côté de la Juventus, on fait comme si de rien n'était. On prépare le match et le jour du match, on va au stade, on publie la composition de l'équipe et on se présente sur la pelouse en disant qu'est-ce qui se passe, l'adversaire n'est pas là. Oui. Donc un petit peu, même beaucoup de mauvaise foi de la part des joueurs de la Juventus. Et à l'arrivée, effectivement, la justice sportive a condamné Naples. En tout cas, le match est perdu sur tapis vert, un point de pénalité. Vous l'avez dit. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un protocole qui a été signé par tous les clubs du Calcio, avec la Ligue, avec la Fédération, avec le gouvernement italien. Et ce protocole, il stipule que quand une équipe a au moins 13 joueurs valides, dont un gardien, ce qui était le cas du Napoli, cette équipe n'a aucune raison de ne pas disputer son match.
Donc ça veut dire que Naples aurait dû aller à l'encontre des décisions de l'autorité sanitaire.
Alors, c'est là que se trouve toute la question. D'ailleurs, le Napoli a fait appel de cette décision, communiqué par Twitter. Le Napoli a toujours respecté les règles et la loi. Il attend avec confiance les résultats de l'appel, croyant fermement à la justice. Mais aujourd'hui, nous, de l'extérieur, on a l'impression que la sanction, elle est terrible pour le Napoli. Mais les clubs italiens, la Ligue, la Fédération, ils sont très remontés contre les dirigeants de Naples. Ah oui. Car ils estiment qu'ils n'ont pas respecté ce protocole qui a été signé pour faire vivre le foot italien. Et ils commencent à dire, si tout le monde, comme ça, la veille du match, dit « Ah, j'ai deux joueurs positifs, je n'y vais pas ». Finalement, c'est l'autorité locale, sanitaire, les autorités sanitaires là de Naples. On ne sait pas exactement ce qui a été dit entre le club et ces autorités sanitaires-là, mais le protocole qui a été signé, il est au-dessus de tout ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire sentir au Napoli. qui peut, en dernier recours, ce sera peut-être le cas, saisir le tribunal arbitral du sport pour se faire entendre. Mais c'est vrai que ça fait cher à l'arrivée. Mmh. Naples avait gagné ses deux premiers matchs de championnat. Là, le troisième, c'est perdu et on leur retire un point.
Bah, aujourd'hui, ils sont huitièmes. Voilà.
Ils sont huitièmes
du classement alors qu'ils étaient cinquièmes. Merci beaucoup.
Il y a un match de prévu, hein, ce week-end.
Bah, j'espère qu'ils seront là. Bien présents. Ils seront sur place, évidemment. Merci beaucoup, Frédéric Suto. Je remercie Boubacar qui nous appelait de la baie.